RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et le journal, Paul Lancin Spinelli à la une, la condamnation à 5 ans de prison ferme de Boualem Sansal hier en Algérie.
Le cas de l'écrivain franco-algérien qui est au cœur de tensions entre Paris et Alger. Emmanuel Macron a dit souhaiter vivement qu'il puisse redevenir un homme libre, une prise de position pour tenter d'apaiser la situation diplomatique et espérer une grâce présidentielle. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo au menu du Conseil de sécurité de l'ONU hier avec une nouvelle passe d'armes entre Kinshasa et Kigali. Au Soudan du Sud, la communauté internationale alerte sur le risque d'une nouvelle guerre civile. Après l'arrestation du vice-président Riek Machar mercredi, le président du Kenya, William Ruto, a quant à lui nommé Raila Odinga comme envoyé spécial dans le pays. Et puis le sommet Nutrition pour la croissance s'achève aujourd'hui à Paris. Hier, 27 milliards de dollars ont été débloqués pour lutter contre la malnutrition. Boualem Sansal, un nom qui incarne depuis plusieurs mois la tempête diplomatique traversée par la France et l'Algérie. Hier, l'écrivain franco-algérien, déjà incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre, a été condamné par un tribunal algérien à 5 ans de prison ferme. Il était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. Emmanuel Macron, le président français, a dit souhaiter vivement que l'écrivain puisse redevenir un homme libre en appelant au bon sens et l'humanité des autorités algériennes. Pierre Firsion, ces mots du dirigeant français pavent la voie à un rapprochement entre les deux pays sur le dossier Sansal.
Après des mois de tension, l'heure semble être à l'apaisement entre Paris et Alger. Par médias interposés, les présidents Macron et Tebboune ont ouvert la voie au dialogue la semaine dernière, dialogue qui est visiblement sur le point de reprendre. Anne-Claire Legendre, la conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président Macron, c'est selon nos informations rendu mardi à Alger. Un déplacement discret pour, selon certains médias, préparer une visite de Jean-Noël Barrot début avril en Algérie. Le ministre français des Affaires étrangères ne s'interdit aucun moyen d'action sur ce sujet, comme sur les autres, y compris de se rendre en Algérie, commente-t-on de sources diplomatiques. Or, selon un bon connaisseur du dossier, impossible pour le chef de la diplomatie française de se rendre sur place si Boualem Sansal est toujours en prison. Le scénario d'une grâce présidentielle serait donc sur la table, une grâce qui pourrait intervenir, selon le spécialiste Hasni Abidi, avant le 5 juillet et la fête nationale, en raison de l'état de santé de l'écrivain et de son âge avancé.
Pierre Firsion, âgé de 80 ans, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est atteint d'un cancer. 7 ans de prison ferme, 300 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité ont été requis à l'encontre de l'ex-président français Nicolas Sarkozy hier dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien dirigeant qui est accusé d'avoir noué un pacte de corruption avec le régime de Muammar Kadhafi. Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs mois. Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, de nouveau au menu de discussion au Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de cette réunion hier, Kinshasa a accusé le Rwanda de mépriser le processus de paix. Le chef de la diplomatie rwandaise a de son côté assuré que son pays ne faisait que se défendre. Karine Auton.
Depuis un mois, l'Alliance Fleuve Congo et le M23 se sont emparés de larges portions du nord et du sud Kivu. La chef de la MONUSCO décrit une situation humanitaire qui s'empire à cause du système bancaire hors service ou des mauvaises infrastructures qui ne permettent pas l'acheminement de denrées. Elle a demandé la réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu. Les ambassadeurs de RDC, de l'Angola, du Burundi, comme l'ensemble du Conseil, ont réclamé un règlement politique. Le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nuhundi, a refusé de confirmer à la presse le nombre de soldats rwandais déployés côté congolais.
Au Rwanda, nous avons déployé des mesures défensives le long de notre frontière pour nous défendre contre les menaces émanant ces 30 dernières années de l'Est de la République démocratique du Congo. Les milices et les groupes qui travaillent pour le gouvernement de Kinshasa ne veulent que renverser le gouvernement rwandais.
Le ministre des Affaires étrangères rwandais a aussi attaqué à charge la MONUSCO, l'accusant de tordre les faits, de ne pas être neutre et d'avoir failli à sa mission de démanteler les groupes armés congolais, malgré le soutien unanime du Conseil pour la force onusienne. Karine Auton, New York, RFI.
L'ONG Human Rights Watch appelle le régime militaire du Burkina Faso à libérer 3 journalistes arrêtés lundi. Leur lieu de détention est toujours inconnu. Le président et le vice-président de l'Association des journalistes du Burkina ont été interpellés à Ouagadougou après la dénonciation publique par l'association de la hausse des atteintes à la liberté d'expression dans le pays. Et puis on vous en parlait hier sur RFI, un reporter de la chaîne privée BF1 a également été arrêté pour un reportage sur les prise de position de l'AJB. La liberté de la presse en péril également au Burundi, où le Conseil national de communication a décidé hier de suspendre le média Yaga Burundi. Le régulateur des médias nommé par le pouvoir affirme que le ministère de l'Intérieur n'a pas retrouvé dans ses archives l'enregistrement du média et considère donc que les justificatifs déposés au CNC sont faux. Les responsables de Yaga Burundi, un média réputé pour son indépendance, se sont dit surpris, rappelant que leur association avait bel et bien été agréée en temps et en heure. Au Soudan du Sud, la communauté internationale prend très au sérieux la menace d'un retour à la guerre civile. L'opposition a accusé les forces du président Salva Kiir d'avoir d'ores et déjà abrogé la trêve de 2018 en arrêtant et en plaçant en résidence surveillée le vice-président Riek Machar. Dans un communiqué commun, l'Union européenne, les États-Unis ou encore la France et le Royaume-Uni ont de leur côté réclamé un cessez-le-feu. Le président kényan William Ruto, lui, a désigné Raila Odinga comme envoyé spécial pour le Soudan du Sud. Il doit arriver dans la capitale Juba aujourd'hui, Florence Mito.
L'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga va précéder de quelques jours la délégation du Bloc d'Afrique de l'Est, l'IGAD, dont la visite aura lieu jeudi le 3 avril. Dans un communiqué hier, l'organisation régionale écrit, je cite, que si elle n'est pas maîtrisée, la trajectoire actuelle pourrait entraîner l'effondrement du processus de transition et une reprise de la guerre. L'Union africaine a elle aussi mis en garde contre toute action qui pourrait exacerber les tensions et appeler les dirigeants sud-soudanais au dialogue constructif. Une mission du groupe des sages de l'Union africaine va être déployée à Djouba afin de désamorcer la situation. L'accord de paix n'est pas facultatif, il est contraignant, a pour sa part déclaré Yasmine Souka, la présidente de la Commission sur les droits de l'homme de l'ONU au Soudan du Sud. Elle dénonce le non-respect de l'accord comme une trahison envers le peuple sud-soudanais. Hier soir, Riek Machar et son épouse Angelina Teny, ministre de l'Intérieur du gouvernement sud-soudanais, étaient toujours en résidence surveillée. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Un policier kényan est décédé hier dans le cadre de la force multinationale déployée en Haïti pour lutter contre les gangs. C'est le deuxième en un mois et demi. L'officier a été tué dans une embuscade tendue par ses groupes armés dans le département haïtien de l'Artibonite. Au Niger, la junte militaire n'a officiellement plus de concurrents politiques. Tous les partis ont été dissous d'après une ordonnance du général Abdourahman Tiani. Annonce faite mercredi en même temps que la nomination du chef du CNSP comme président pour une durée de 5 ans, période qui pourra toutefois varier en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Un panel de mesures issues des recommandations des assises nationales qui s'étaient tenues le mois dernier au Niger. Magali Lagrange, les grandes formations politiques nigériennes n'ont pas réagi à ces annonces.
Silence radio dans les états-majors des grands partis nigériens après l'annonce de leur dissolution dans un pays où l'espace civique s'est fortement réduit. Plus de 30 ans après l'instauration du multipartisme, le Niger comptait 172 formations politiques. Suspendues depuis le coup d'état de 2023, elles n'ont pas été associées aux assises nationales. C'est un tournant décisif dans la vie politique du pays, écrit le média Air Info Agadez. Un membre du PNDS y voit une façon de remettre de l'ordre dans une offre politique pléthorique. Parmi ces dizaines de formations, beaucoup n'étaient que des coquilles vides, explique un analyste. Pour lui, il existait par ailleurs une réelle déception de l'opinion nigérienne envers les partis, mais leur dissolution ne réglera pas les problèmes politiques. Un observateur de la société civile exprime sa crainte. L'installation progressive de la pensée unique, la disparition de toute opposition. Les membres des partis que nous avons pu joindre attendent le feu vert pour créer de nouvelles formations et préparer un retour des civils au pouvoir. Les assises nationales ont recommandé de limiter leur nombre.
Magali Lagrange, dans un communiqué diffusé mercredi, le gouvernement malien de transition appelle son voisin mauritanien à cesser les violations flagrantes des droits humains à l'encontre de ses ressortissants migrants. Bamako affirme que plus de 1800 Maliens ont été refoulés de Mauritanie au cours des dernières semaines dans des conditions violentes. Récemment, des ONG sénégalaises notamment ont établi des constats similaires pour des migrants originaires du Sénégal. Les Sénégalais qui vont pouvoir acheter leur riz moins cher à partir de la semaine prochaine. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, a annoncé hier une baisse à partir du 3 avril de 60 francs CFA par kilo de riz, passant de 410 à 350 francs CFA le kilo. La solidarité internationale contre la malnutrition se met en marche à Paris. Hier, les acteurs présents au sommet Nutrition pour la croissance ont promis de débloquer 27 milliards de dollars afin de venir en aide aux quelques 700 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde. Plusieurs États africains, notamment, sont englués dans ce piège. Alors pour s'en sortir, ils cherchent notamment à devenir plus autonomes pour produire de l'alimentation et être moins dépendants des exportations. Charlotte Cosset.
L'impulsion peut venir de la base, plaide Alice Rouweza, présidente de l'AGRA, une organisation africaine qui travaille à la transformation des systèmes agricoles sur le continent.
Parfois, on a l'impression qu'il n'y a que de grosses entreprises. Quand on a commencé, les semences venaient uniquement de grandes entreprises privées et cela faisait débat. Ce que nous avons fait, c'est de nous en procurer localement. Nous avons créé une plateforme pour permettre aux petits exploitants de venir produire des semences et de les mettre à disposition de nos petits agriculteurs.
Autre élément d'importance pour faire face à la baisse des financements, la mobilisation des capitaux. Pour le Fonds international de développement agricole, le FIDA, cela nécessite d'adapter les modèles. Alvaro Lario, son président.
À l'avenir, il sera très important que les institutions telles que la nôtre, les banques publiques de développement, favorisent un modèle dans lequel leurs fonds ne servent pas seulement à financer un projet, mais aussi à catalyser des fonds et à s'assurer qu'ils mobilisent le secteur privé. Pour nous, cela signifie par exemple développer des garanties de crédit partiel, créer des plateformes à travers lesquelles nous prenons le premier risque et le secteur privé s'engage ensuite.
Une dynamique qui doit être également politique. Le FIDA pointe le besoin de régulation et d'écosystèmes favorables pour faciliter les investissements des petites entreprises.
Charlotte Cosset, tout de suite, la fin des RFI Matin avec vous, Julien Coquelroem.
Merci Paul Lancin-Spinelli, bonne journée.